en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Michael Goncalves,
Baptiste Antoine, Marc Fichet.
Bonjour, bonsoir. Une émission spéciale de VMDN aujourd'hui à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Nous avons installé notre studio au siège de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Car la question se pose, quelle francophonie pour le 21e siècle? Le président français Emmanuel Macron a lancé une consultation citoyenne sur la francophonie autour d'un nouveau projet qui se veut ambitieux. Chercheurs et artistes se sont engouffrés avec force conviction dans ce débat linguistique, culturel, mais aussi évidemment politique, voire géopolitique. On en parle donc aujourd'hui avec nos trois invités, Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie, la poétesse, romancière et peintre franco-ivoirienne Véronique Tadjo, et Gustave Akakpo, dramaturge, écrivain, comédien, conteur et illustrateur togolais de naissance. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Michaël Jean.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici au siège de l'OIF Avenue du Bosquet à Paris. Bonjour Véronique Tadjo.
Bonjour.
Bonjour Gustave Akakpo. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, on aurait pu commencer par évoquer ce que certains appellent, peut-être de façon un peu polémique, la francophonie institutionnelle. On va y venir évidemment dans un instant. Mais d'abord, pour lancer notre débat, je vous propose d'écouter plutôt ces étudiants, des étudiants venus du monde entier à Paris, que Marthe Rousseau a rencontrés à la Cité Universitaire Internationale, boulevard Jourdan. Et elle leur a posé une question qui, a priori, était assez simple. Pour vous, qu'est-ce que la francophonie? Voici leur réponse.
La francophonie, c'est une communauté de gens qui parlent tous français, qui est dispersée sur 3 ou 4 continents, Amérique, Afrique, peut-être un peu en Asie, puis Europe, donc c'est très large.
La culture, l'histoire royale, la gastronomie, l'architecture.
Les gens qui font des commerces avec les Français.
La francophonie, c'est un ensemble soit de pays ou bien de personnes qui partagent comme langue commune le français.
Tout ce qui est la culture française, ça s'apprend dans les pays étrangers. Les lectures, les livres, la musique.
Tous les pays qui sont francophones, ils ont deux langues. La langue essentielle, c'est la langue de leur pays et la langue française en plus.
C'est une langue assez parlée dans le monde. Elle est utilisée dans beaucoup de pays, notamment en Afrique.
Le français, c'est une langue qu'on parle parce qu'on l'aime, mais pas par obligation comme l'anglais.
Pour moi, ça veut dire parler français, c'est tout.
Le français, c'est un signe de noblesse, c'est un signe d'excellence et tout.
Une manière de parler, de penser et surtout de vivre.
Alors, ce qui est frappant, Michaël Jean, c'est que la francophonie dépasse très largement la langue française.
Assurément. D'abord, une langue en partage, effectivement. Avec plusieurs autres langues. J'entendais tout à l'heure quelqu'un dire c'est une langue nationale et puis le français. Mais quand on pense à un espace par exemple comme le Cameroun, un pays comme le Cameroun, c'est 300 langues. Donc aussi c'est une communauté de valeurs universelles. Et avant tout, un grand désir de faire ensemble, d'agir ensemble sur les 5 continents.
Quand vous avez entendu Véronique Tadjo, cette étudiante dire c'est une langue qu'on aime, c'est pas forcément une langue que l'on parle par obligation. Vous partagez cette façon de voir les choses?
Oui. Je pense que on aime la langue française en Afrique et ailleurs. Alors dire que l'anglais est appris par obligation, je suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai. Peut-être ce serait vu comme une porte plus efficace vers le monde du travail, mais c'est justement là que on doit se battre pour que le français reste une langue qui ouvre des portes.
Voilà. Il faut se battre, Gustave Akakpo. Il y a aujourd'hui des risques, il y a aujourd'hui péril dans la demeure en ce qui concerne l'avenir de la francophonie.
Oui. Enfin, moi je parlerais de la langue aussi. Si on prend par exemple Google, par exemple, quand vous traduisez en albanais un texte, parfois c'est très bizarre parce qu'en fait ça repasse toujours par l'anglais. Donc ça vous montre déjà la prédominance.
Donc il faut se méfier des traducteurs automatiques.
Oui, bien sûr. Et aussi en termes de communauté, je crois que la francophonie est d'abord une belle. Enfin, pour moi, ça a un lien avec l'alchimie. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'histoire d'Onésime qui a inventé ce mot, quelle est l'expansion coloniale qui a derrière, et puis les pères de la francophonie, Senghor, Duré, etc., ont pris ce mot et l'ont transformé en une autre vision. Et il y a toujours eu un peu de problème avec cette chose de la francophonie. Qu'est-ce qu'on en fait? Le fait que pendant longtemps et jusqu'à encore aujourd'hui, les Français ne se sentent pas francophones, c'est un grand drame. Il a besoin. Alors le péril vient de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ça qui est intéressant avec le chantier de Macron, c'est que pour une fois, on commence à en parler et on peut mettre des mots sur la table et discuter.
C'est-à-dire que la francophonie, elle commence d'abord par la France, Michaël Jean.
Enfin, c'est la France et 83 autres États et gouvernements.
Oui, mais quand Gustave Acapo nous dit que les Français ne se sentent pas francophones.
En fait, c'est un vrai défi. Il y a un déficit de communication, effectivement, en France sur ce qu'est la francophonie, sur ce qu'elle représente, sur ses actions et sur l'enjeu aussi que représente la francophonie. Et c'est dommage. C'est dommage, mais je crois qu'il y a en France quelque chose à régler aussi dans ce rapport à cette organisation qui rassemble en quelque sorte le monde et qui se définit à travers la langue française, certes, mais une langue qui est portée par des peuples, leurs traits de civilisation, leurs expériences, leurs imaginaires, et c'est mais ça me laisse toujours un petit peu perplexe de voir cette difficulté, effectivement,
des choses à régler, effectivement,
les Français à se considérer comme francophones, mais je pense que c'est pas insoluble.
C'est pas insoluble. Des choses à régler. Alors, vous faisiez allusion, Gustave Acapo, à Onésime Reclus. C'est lui, effectivement, qui est considéré comme l'inventeur du mot francophonie, hein, un géographe au 19e siècle, qui était aussi, d'ailleurs, un militant de l'expansion coloniale. À la base, Véronique Tadjo, c'est un concept politique, voire géopolitique, la francophonie. Est-ce que cette conception-là est toujours d'actualité?
Je pense que oui.
Oui, je pense. Mais c'est fini, la colonisation.
Enfin, oui, non. Quand je dis d'actualité, je veux dire que cela existe encore.
Le poids de la colonisation continue de peser.
Je pense que oui, encore dans les rapports entre les États, entre la France et le reste du monde, et en particulier les anciennes colonies. Ça, c'est un fait. Mais bon, moi, je pense que on ne doit pas forcément mettre la francophonie avec la France-Afrique, par exemple. Je pense que ce serait une erreur de parce que je me dis c'est ça à voir, je pense, avec la qualité de nos dirigeants dans nos différents pays. Et on enlèverait la France-Afrique, par exemple, ça pourrait devenir, je sais pas, la Chine-Afrique, ça pourrait devenir autre chose aussi. Donc c'est la qualité de nos dirigeants, je pense, qui va faire la différence.
Et puis, je pense qu'il faut surtout se dire de quel idéal est née la francophonie. Et cet idéal, il est très moderne. C'est-à-dire qu'à l'écroulement du colonialisme, vous avez effectivement ce que l'on nomme les pères de la francophonie, que vous nommiez tout à l'heure, Léopold Sédar Senghor, Hamani Diori, Norodom Sihanouk, Habib Bourguiba, qui sont tous des hommes du Sud et qui doivent porter de nouveaux États indépendants et qui se disent « Bon, nous ne sommes pas les seuls dans cette situation et qu'avons-nous à notre portée pour avancer ensemble sur ces pays à construire et à définir ?» Et la responsabilité est lourde. Et l'on réalise très vite que ce qu'il y a comme levier extraordinaire, c'est cette langue en partage. Et ce sont eux qui iront vers la France en disant nous avons la possibilité de nous donner un espace qui nous permettra de repenser nos relations les uns aux autres, repenser les regards que nous portons les uns sur les autres. Et déjà, ils se projettent aussi sur un marché en commun. Et la France, au départ un peu rétive, se dit bon, d'accord, bien une organisation d'abord culturelle et technique, une agence de coopération culturelle et technique.
On y va par petits pas.
On y va par petits pas, mais très vite, ces pays qui se définissent, qui se construisent, voient dans cette langue une possibilité de se rejoindre et décident de cet espace comme un espace de coopération pour entreprendre, un espace de solidarité, un espace de fraternité. Mais Dieu sait que autour de ce mot très juste qu'utilisait Senghor pour définir la francophonie, qui est un humanisme intégral, l'on a là quelque chose d'extrêmement moderne. Penser à l'état du monde aujourd'hui et combien on a besoin de ces valeurs-là.
Mais il y a aussi un autre mot que des intellectuels francophones ont employé. Je pense par exemple à Kateb Yassine, hein, l'écrivain algérien, pour lequel le français est un butin de guerre. Et là, il fait donc directement référence évidemment au colonialisme et puis à la guerre d'Algérie. Ce poids-là, Gustave Acapo, est-ce qu'on peut aujourd'hui, ce début de 21e siècle, s'en affranchir?
Est-ce qu'on peut s'en affranchir? En fait, sur la question de la langue, déjà, moi, pour continuer ce que dit Kateb Yassine aussi, il dit la langue ne peut pas être un instrument de domination parce que dans la langue du dominant, je peux lui dire qu'il a tort de me dominer. Et c'est aussi...
On peut retourner l'arme voilà, contre le colonisateur.
Enfin, ce n'est plus une arme. En fait, pour moi, la langue ne peut pas être une arme. C'est un espace de partage, de rencontre. C'est un carrefour. C'est un carrefour qui fait que moi, c'est le premier signe d'altérité que moi j'ai eu. C'est-à-dire que je suis né en parlant deux langues, le français, le mina. Donc déjà, ça veut dire que j'ai un autre rapport au monde déjà. Ça, c'est, je pense que c'est important. Maintenant, quant au poids de la francophonie, parce que des fois on parle de la francophonie institutionnelle, de la francophonie culturelle, etc. Mais tout ça, c'est institutionnel aussi. Pour schématiser les choses, j'ai deux rapports très contradictoires avec la francophonie, parce que l'OIF, moi venant du Togo, l'OIF pendant très longtemps, en termes de superviseur d'élections, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que souvent, ça a soutenu le président Yadema, ensuite son fils est venu, donc il y a quand même ce soutien-là. Mais en même temps, je suis quelque part aussi un produit de la francophonie culturelle, parce que j'ai pu, grâce à cette francophonie-là, grâce à des gens qui travaillent dans ces institutions, grâce aux rencontres, par exemple, bénéficier de voyages, rencontrer d'autres locuteurs de la langue en Tunisie, par exemple, des choses comme ça. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un espace commun où on a déjà... c'est comme si, parlant une même langue, on a un rendez-vous pris d'avance. Donc on arrive quelque part et puis on se reconnaît. Tiens, alors que moi j'ai mon histoire, vous avez votre histoire. Et tout d'un coup, il y a des gens qui nous ont déjà reliés pour commencer à discuter. Ça, c'est important.
Donc, il y a vraiment une double face, hein, effectivement, à la francophonie institutionnelle. Mais quel genre? Mais je vais vous laisser répondre, hein, mais je vais rajouter une pierre à l'édifice. Vous avez vu, évidemment, la tribune d'Alain Mabankou dans l'Obs, qui dit, le grand reproche qu'on adresse à la francophonie institutionnelle, c'est qu'elle n'a jamais pointé du doigt en Afrique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d'expression, tout cela orchestré par des monarques qui s'expriment et assujettissent leur population en français. Oui, mais ça revoit un petit peu ce que Gustave Akakpo évoquait au détour d'une phrase.
Juste envie de dire que ce n'est jamais, moi je dirais jamais, ça m'a été pointé. Non, pas jamais. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que ces institutions aussi sont portées par des gens. Et dans ces gens-là, il y a des gens qui ont pris position aussi contre les dictatures. Il y a des gens aussi qui ont pris acte pour ces dictatures-là.
Oui, donc c'est jamais tout le monde dans le même sac.
Et puis ça va dans les deux sens quand même. Je veux dire, aussi. On ne peut pas non plus dire simplement que c'est la faute de la France, que la France porte toute la France-Afrique.
Absolument.
Non, je pense qu'il faut aussi qu'on se regarde en face et qu'on voit que chez nous, il y a quand même un problème. Et justement, c'est un problème auquel on doit faire face parce que sinon, il va se répéter dans d'autres situations.
Michael Jean, est-ce qu'on a fait un mauvais procès? Est-ce que Alain Mabankou fait, pour vous, procès à l'OIF?
Je pense que c'est une phrase un peu facile. Je le dis en tout respect pour Alain Mabankou. Mais j'estime qu'il y a un vrai travail qui est porté par la francophonie pour accompagner les institutions et les renforcer de ces toutes jeunes démocraties. C'est un vrai travail.
Y compris quand ces pays ne sont pas des démocraties.
Bah, écoutez, vous pourriez dire la même chose aux Nations Unies, que je sache. Je pense qu'il y a un projet, il y a une volonté, il y a une responsabilité, des missions qui sont portées avec beaucoup de vigueur, beaucoup d'expertise, une capacité aussi de rassembler les expériences, les meilleures pratiques de l'ensemble des pays de l'espace francophone et de les mettre à contribution là où il le faut et quand il le faut. Nous avons quand même des textes de référence, que ce soit par exemple la déclaration de Bamako qui vraiment met bien en place ces valeurs, hein, ces valeurs autour de la démocratie et la défense aussi des droits et des libertés, la défense des institutions, la défense de l'état de droit, tout simplement. Donc c'est un travail de persévérance, c'est un travail sur le long cours. Les choses ne se réussissent pas comme ça d'un coup de baguette magique, quoi. C'est une organisation internationale multilatérale est là pour faire aussi aussi cela. Je trouve que cette façon aussi de distinguer entre francophonie institutionnelle et d'autres francophonies, c'est là une erreur parce qu'au fait, la francophonie est une, ensemble, rassemblée. Elle n'est pas fragmentée. Elle est sur un idéal, elle est sur un projet et porteuse aussi et en défense de valeurs très précises, des valeurs universelles.
Venons-en au projet, justement. On va écouter ce que disait le président Emmanuel Macron le 8 janvier dernier lors de sa visite en Chine.
Le français est un atout pour l'avenir. C'est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde, la 4e langue d'Internet, la 3e langue des affaires, la 2e langue la plus apprise dans le monde qui sera parlée par plus de 700 millions de personnes au milieu du siècle, dont 85% en Afrique. Cela peut être encore davantage si vous décidez de vous l'approprier. Parce que le français est cette langue qui s'est toujours construite dans le dialogue avec les autres langues, dans ces passages de culture à l'autre, dans ces échanges permanents. C'est une langue qui ne se construit que par le plurilinguisme. Je n'ai qu'un souhait. Faites du français la première langue au monde dans les 30 à 40 ans qui viennent, en décidant de le parler.
Michaël Jean, est-ce que l'objectif énoncé par le président de la République est un objectif raisonnable ?
Je trouve qu'il, premièrement, il parle d'une francophonie plurielle, multidimensionnelle dans ses actions. Et en même temps, il parle du plurilinguisme. Or, il faut savoir que la francophonie, c'est la défense, oui, de la langue française, mais pas de la langue française pour la langue française. C'est aussi la défense du multilinguisme. C'est un combat de tous les instants que nous portons dans toutes les instances internationales, à savoir la place de la langue aussi dans la définition d'une identité. Alors, ce que dit le président Macron et son souhait pour que cette langue rayonne dans le monde, c'est un souhait porté par un président de la République française, mais en même temps il faut savoir que cette langue, elle est inscrite aussi déjà dans le monde, sur les 5 continents, et dans la façon dont quantité de peuples se projettent aussi à travers cette langue, partant de ce qu'ils sont. Et nous, francophonie, nous trouvons cette diversité des cultures, cette diversité, je dirais, des traits de civilisation, des peuples, extrêmement, extrêmement riches. La France, par la voix du président Macron aujourd'hui, a envie de renouer avec cet ensemble. Quand le président Macron dit l'avenir de la langue française est en Afrique, c'est une évidence. C'est ça aujourd'hui.
Mais alors, Véronique Tadjo, si je vous entends bien, ça veut dire que la francophonie aujourd'hui ne serait plus un instrument de domination, mais plutôt une forme de partage, une forme d'ouverture?
Mais c'est ce que j'aimerais, c'est ce que nous aimerions. Mais je pense qu'il faut aller au-delà des chiffres, c'est-à-dire au-delà du nombre de locuteurs officiels. Il y a des pays qui sont dits francophones, mais où on voit sur le terrain que le français peine. Et donc, c'est ça qui m'inquiète, moi. C'est la qualité du français qui est parlé dans les pays dits francophones. Et je pense que là, il y a tout un travail et je serais vraiment très heureuse si je voyais qu'il y avait des actions concrètes pour revoir la formation des formateurs, pour vraiment là, s'occuper. Actions. Oui, justement, il faudrait qu'on les fasse mieux connaître et qu'on les voit sur le terrain, parce que je pense qu'il y a réellement un problème.
Oui, c'est un problème de formation.
Aussi, le français peine en France aussi. Moi, je travaille avec les gamins à l'école. Le niveau du français, je peux vous dire que...
Michaël Jean, très rapidement, parce qu'on va s'arrêter pour
le poids des mots. Vous dites, par exemple, la francophonie ne serait plus un instrument de domination. La francophonie, c'est tout sauf un instrument de domination. C'est une mise en partage, déjà. C'est une mise en partage, c'est une vraie volonté de faire ensemble. De faire ensemble autour d'un humanisme intégral. Et pour ce qui est aussi de la qualité du français, de l'enseignement du français et en français, je veux dire, nous avons par exemple un institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, dont le but premier est justement ce que vous dites, la formation des maîtres, la formation massive du français et en français. Et c'est une réalité sur le terrain. Nous sommes là pour appuyer les pays de l'espace francophone qui en ont le plus besoin dans le renforcement de leur programme et de leur politique d'éducation et de formation.
On va sans doute y revenir dans la deuxième partie de l'émission. On va marquer une courte pause pour le flash. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes toujours en direct du siège de l'OIF Avenue Bosquet dans le 7e arrondissement de Paris et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
VMDN en direct du siège de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Avec nous, la secrétaire générale de la Francophonie, Michaël Jean, et les écrivains Véronique Tadjo et Gustave Akakpo. On continue de parler de l'avenir de la francophonie, l'avenir notamment de cette langue française que nous avons tous en partage. On a bien compris en écoutant la première partie de l'émission que le débat est beaucoup plus large que la seule question de la langue. On va s'intéresser tout de même aux mots, puisque c'est d'abord par la langue que l'on entre dans la francophonie lorsqu'on n'y est pas forcément né. On va retourner à la cité universitaire international, toujours avec Marthe Rousseau qui a demandé à ses interlocuteurs cette fois ce qu'était pour eux la langue française.
La langue française, pour moi, c'est la féminité.
Je pense que c'est quand même la langue la plus belle au monde, quoi.
C'est un peu difficile à apprendre. Il y a beaucoup de conjugaisons et beaucoup de grammaire.
Et le français de France, pour les gens du Québec, a un aspect un peu, pas vieille France, mais un peu classique.
Ça m'évoque Claude Debussy et ma copine.
Ça renvoie au classicisme, une chose très traditionnelle.
Romantique.
Musicale.
La culture.
La langue française, c'est une langue au-delà des frontières françaises.
Chez nous, en Égypte, tout ce qui parle en français, c'est les gens classe.
Ça vient avec une classe en fait, un charisme.
Je dirais comme les autres Turcs peut-être, mais c'est le prestige. Si on parle français, ça veut dire qu'on est très très bien éduqué.
La langue française, c'est le deuxième genre après anglais.
Derrière la langue française, il y a des valeurs, de la culture également. Même avec ces petites îles comme la Nouvelle-Calédonie ou encore la Réunion, il y a différentes cultures.
C'est plutôt un atout pour toutes les personnes qui viennent d'un pays francophone seulement.
C'est éducation.
Un adjectif simple.
Compliqué.
It's very difficult for me to learn French, but I'm in love with.
Déhiscence. J'adore les mots déhiscence.
C'est pour les fleurs. Il y a un moment où les fleurs souffrent et ça, c'est la déhiscence.
Pour moi, c'est une femme très jolie, la langue française.
Je viens du Burundi.
Espagne.
Algérie.
Turquie.
Je viens du Bénin.
Je viens de l'Égypte.
Mexique.
Le Liban.
Je viens de l'Argentine.
Ça veut dire quoi, le français ou moi?
La multiculturalité.
Ouais, on retrouve cette dimension multiculturelle qu'on évoquait dans la première partie de l'émission, Michaël Jean, avec aussi ce Mexicain qui parle de déhiscence, un mot qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Qu'est-ce que vous retenez, Gustave Akakpo, de tout ce que vous avez entendu?
Je pense qu'il y a quelque chose de sensuel. On parle de femme, on parle de fleurs. D'ailleurs, je suis étonné qu'une femme, je crois, qui parlait de la langue française.
Mais la comme française, c'est la féminité. Ouais. Oui.
C'est la féminité. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose de sensuel là-dedans. Je ne sais pas si on fait un tour de table sur cette question-là, mais j'aimerais juste revenir un peu à ce que Monsieur le Président disait plus tôt. Je ne voudrais pas lui faire un mauvais procès, mais j'ai l'impression que dans ce qu'il a dit de multilinguisme, de multiculturel, enfin c'est quand même assez propre à plusieurs langues, et quand même l'histoire de la France n'est pas une histoire, l'imposition du français n'est pas une histoire très très multiculturelle. Elle a laminé d'autres langues régionales françaises, donc c'est aussi une histoire. C'est pour ça qu'il faut, je pense, distinguer la langue aussi de l'État-nation. Je pense que c'est important de faire ce distinguo-là. Cette langue, elle est en partage, c'est une chose. Les États ont leur propre politique, leurs propres priorités, leurs propres intérêts. Oui. Ils n'ont que
mais
des
la
intérêts
langue évolue.
D'ailleurs.
Mais la langue évolue aussi en dehors de la politique, en dehors des
moi,
États.
J'aime beaucoup le français, mais j'ai toujours du mal avec ce discours qui fait de la langue française une déesse, la plus belle langue du monde. Non, le minois aussi, c'est très beau. L'anglais, c'est très beau. En fait, si on est dans... Enfin, heureusement qu'il y a plusieurs langues. Je pense que le plus grand drame, c'est aujourd'hui la mort des langues, le rythme à laquelle les langues disparaissent. Je suis convaincu qu'un jour, peut-être, l'humanité se trouvera face à un problème dont la solution se trouve peut-être dans une langue perdue, parce qu'une langue, c'est déjà nommer le monde, c'est déjà comment on voit le monde.
C'est important ce que vous dites là, parce que au fait, et c'est à l'essence même et au cœur même de ce que nous défendons. Par exemple, en francophonie, nous défendons aussi l'enseignement des langues nationales, justement pour nous assurer de leur survie, parce que nous voyons dans chaque langue une richesse. Chaque langue est porteuse de quelque chose d'unique, et porteuse de valeurs, de réalité, de volonté aussi de se dire et de dire le monde. Donc il n'y a pas une langue en suprématie par rapport aux autres. Et nous sommes l'une, je dirais, des rares organisations multilatérales et internationales à avoir, mais au cœur même de son travail, cette insistance sur l'enseignement des langues nationales, en nous disant qu'il est important que l'enfant, par exemple, dans ses premiers apprentissages, les fasse d'abord dans sa langue maternelle pour aller ensuite vers une autre langue. Ce que nous voyons avec la langue française, c'est une langue partenaire. Une langue partenaire qui est aussi, dans sa coexistence avec d'autres langues, fécondée par ces autres langues et qui, elle aussi, influence les langues avec lesquelles elle a partagé l'espace.
Véronique Tadjou.
Oui, je voudrais dire aujourd'hui que l'image du français comme la plus belle langue, langue de l'amour, de la diplomatie, de tout ça, en fait, lui fait du tort. Aujourd'hui, en 2018. Parce que ce qu'on cherche, ce que les jeunes cherchent, c'est une langue efficace. C'est-à-dire, vraiment, ils sont obsédés par l'accès au travail. Et justement, c'est là où le problème se pose. C'est que la langue française n'apparaît plus comme la langue qui va amener à l'économie, à l'autosuffisance.
Justement, je crois que vous aviez, quand vous étiez candidate à la tête de l'OIE, vous avez beaucoup mis l'accent justement sur cette dimension-là, oui, Michaël Jean. Comment est-ce que vous l'avez traduite en acte?
En fait, pour nous, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que, par exemple, la majorité des pays de l'espace francophone sont des pays où 60% de la population a moins de 30 ans. Alors, l'insertion professionnelle des jeunes, elle est importante. L'accompagner au mieux par la formation professionnelle, technique, technologique, par une éducation aussi de qualité. Donc, tout le travail que nous faisons sur la formation des maîtres, nous assurer que aller à l'école, c'est une chose, l'accès, c'est une chose, mais avoir accès aussi à quelque chose qui est un enseignement de qualité, fondamental. Nous travaillons quotidiennement avec les pays pour renforcer justement les compétences et aussi leurs politiques et leurs programmes en matière d'éducation et de formation. Et d'autre part, nous associons cela également à l'enseignement, comme je le disais, des langues nationales. Mais comme vous dites, les jeunes veulent une langue qui leur permette aussi de se définir dans leur projet professionnel. Et parler de la langue française comme une langue belle, sensuelle et tout le reste, mais c'est aussi une langue des sciences, c'est aussi une langue du pragmatisme, c'est aussi une langue des affaires, c'est aussi une langue, je veux dire, de l'économie. Et c'est également une langue, je dirais, également du droit.
Mais est-ce que c'est une langue qui, Gustave Akakpo, peut réellement aujourd'hui concurrencer, voire contrebalancer l'anglais et peut-être demain le chinois, parce que le nombre d'instituts Confucius qui ouvrent aujourd'hui à travers le monde est absolument exponentiel, alors qu'on a un peu l'impression que pour la France, eh bien, les crédits sont un peu au régime sec.
Est-ce qu'elle peut concurrencer? Enfin, déjà, moi, j'ai toujours du mal avec le terme de concurrencer. Mais évidemment, oui. il faut que
pour il y a de la place pour tout le monde. Vous allez me dire.
Il faut qu'il y ait de la place pour, enfin, même en termes de multilinguisme. Je pense que le créole est une expérience qui a permis, par exemple, à quelqu'un comme Glissant de bâtir le concept du tout monde. C'est-à-dire que on est dans forcément notre monde encore plus aujourd'hui. On est dans la rencontre. Donc forcément, il faut trouver des ponts entre tout ça. Et c'est pour ça que, et en même temps, il faut avoir les moyens de défendre ces ponts-là. C'est pour ça que, peut-être je saute du coq à l'âne, mais je trouve que, par exemple, parce que vous avez parlé des instituts Confucius, moi je trouve que c'est une aberration, alors aujourd'hui, de fermer le tarmac, par exemple, alors que la francophonie est au cœur du projet de Macron, et de dire qu'à un moment donné, il y a des gens où ce sont justement le seul théâtre qui était jusque-là missionné sur l'espace francophone, mais...
Alors, attendez, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est important de le préciser parce que tout le monde ne connaît pas Paris. Donc le Tarmac, c'est un théâtre qui met en valeur, en évidence, le travail des écritures francophones au sens très large, qui est situé dans le 20e arrondissement de Paris, avenue Gambetta. Il doit être fermé donc le 31 décembre prochain, a annoncé le ministère de la Culture. Vous faites partie vous-même, Gustave Akakpo, du comité de lecture. Bon, on essaie de trouver une solution en ce moment pour le
Tarmac. Oui, on essaie de trouver une solution, mais c'est toute la méthode qui, encore une fois, ramène à quelque chose où la France n'a pas encore trouvé sa place dans la francophonie. C'est-à-dire que les pères de la francophone étaient très modernes, étaient en avance sur leur temps, ont déjà compris qu'à un moment donné, la langue, c'est une force commune. Ce que la France a mis du temps à comprendre. Et la France est victime de sa sa place, une, qu'elle se croit toujours une, centrale, alors que le monde est décentré depuis très longtemps. Et donc, victime de cette place-là, pour moi, la démarche de fermer le tarmac sans consulter les artistes francophones en amont de ça, montre le même mépris qu'on a toujours eu pour cet espace. Et encore une fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, parce qu'on parle de la
mais, du mépris tarmac, de la part de qui
du gouvernement, très, très clairement. Et on parle par exemple, parce que pendant longtemps, le tarmac était considéré comme un ghetto. Alors que le ghetto, c'est sur les autres scènes qui ne sont pas ouvertes à la diversité. Au tarmac, moi, en tant qu'écrivain togolais, je suis mis en scène par un metteur en scène français. Là, il y a pas de ghetto. Il n'y a pas de ghetto dans la salle non plus.
Michael Jean, sur l'avenir du tarmac, est-ce que l'OIF est armé pour venir un petit peu en aide et maintenir ce genre de structure?
Il y a toute une mobilisation autour de cet espace, et au fait, ce que cela dit, c'est qu'il y a un grand besoin d'un espace comme celui-ci. Tout simplement, et je pense qu'il faudrait l'élargir pas seulement à un lieu mais au tout lieu si l'on veut pour des œuvres d'expression française et en d'autres langues également, avec aussi le croisement entre ces langues et ces projections, ces façons de dire mais je voudrais revenir à la langue française et à cette façon un peu défaitiste qu'on a d'en parler ici.
Parce que défaitiste, c'est-à-dire défensive d'une certaine façon.
Défaitiste. Premièrement, il n'est pas du tout question d'une concurrence avec une autre langue ou d'autres langues. Pas du tout. La langue française existe en soi, et il faut absolument voir ce qui s'accomplit en français. C'est aussi une langue de l'innovation, c'est aussi une langue de la création, c'est une langue, je veux dire, porteuse de forces réelles. Donc il faut arrêter de se poser le problème en se disant, bon, voilà, est-ce qu'elle peut vraiment concurrencer ou arriver à la même hauteur que...
On parlait d'efficacité tout à l'heure avec Véronique Tadjo.
C'est une langue d'efficacité, nettement, il faut le savoir. Et l'enjeu maintenant, c'est de s'assurer que dans les pays de l'espace francophone, et nombre d'entre eux sont des pays en émergence, des pays en développement, des pays moins avancés, comme, j'aime pas du tout ce terme-là, mais bon, cela parle
tout
aussi.
Tout le monde le comprend.
Voilà, tout le monde le comprend. Mais c'est que l'on puisse aussi penser prospérité dans cette langue-là, que l'on puisse penser aussi, encore et toujours, émancipation, développement humain et économique durable dans cette langue-là, que l'on puisse penser davantage solidarité et coopération dans cette langue-là. Or, c'est le cas, c'est du quotidien, et c'est formidable de pouvoir s'associer ainsi avec cette langue qui est vraiment un trait d'union extraordinaire pour agir et pour agir ensemble.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve, j'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi, ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré, des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle, des silences chaophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendances bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. S'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris métèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel, galope après les tirailleurs qui retrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer, je t'ai écrit des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes, des valises d'exilés, des juifs errants et des roms, aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, aux chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée, caravane d'apatrides, boat people, caravelles, sur tes frontons, Paris, viennent lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine, capitale de la monde, à jouer la mondaine, laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores, cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris, ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris,
Paris. Gaël Faye sur RFI, Paris Métèque dans VMDN autour de la francophonie avec Véronique Tadjo, Gustave Akakpo et Michael Jean qui nous accueille ici au siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie à Paris. Michael Jean, il y avait aussi un projet dont je crois qu'il faut qu'on dise quelques mots, le visa francophone. Il est toujours d'actualité.
En fait, voilà, quand on dit cette langue comme trait d'union pour agir ensemble, c'est agir ensemble sur toutes les questions. Soient-elles des questions de sécurité, de stabilité, de développement, des questions politiques, de démocratie, des questions de droits et des libertés. La mobilité est un vrai sujet. C'est-à-dire que, par exemple, prenez les forces économiques dans les pays de l'espace francophone. Ceux du Nord, donc les entrepreneurs du Nord, peuvent circuler librement, aller partout pour présenter ce qu'ils ont à offrir, pour explorer des marchés, pour explorer aussi des possibilités de partenariat ou de maillage avec d'autres entrepreneurs. L'ADN de l'entrepreneuriat, c'est ça. Mais pour ceux et celles du Sud, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Et là, il y a une vraie injustice. Il y a une vraie injustice et cela crée aussi un déficit de possibilités. C'est-à-dire que pour des raisons d'amalgame, de préjugés, l'on freine les possibilités pour les entrepreneurs et les forces économiques du Sud, toute circulation dans le tout monde. Et c'est un problème parce que cela... Les acteurs économiques ont besoin de se rencontrer. Donc que ceux du Sud ne puissent pas circuler, d'une part ça freine leur élan, ça freine leurs projets économiques qui sont si essentiels parce que ce sont des moteurs de croissance, et d'autre part cela crée une impossibilité également pour ceux du Nord de pouvoir engager aussi des projets avec ceux du Sud. Donc c'est une perte, c'est un vrai déficit. C'est un vrai déficit pour nous tous, quoi. Donc le visa francophone, c'est la nécessité, en tout cas, de penser un mécanisme pour mettre fin à cette situation. Et l'autre jour, nous avons vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Nous avons rassemblé à Bucarest, en Roumanie, des femmes de tout l'espace francophone. Et nous avons voulu célébrer surtout les femmes entrepreneurs. Et parce que nous avons travaillé bien en amont avec le gouvernement roumain pour permettre justement aux femmes du Sud d'être du rendez-vous, nous avons réussi à lever tous les obstacles. Et elles étaient plus de 700 femmes entrepreneurs de l'espace francophone à se rassembler, à se rencontrer, à engager le dialogue ensemble. C'est dire que le problème... Et il est possible de le résoudre, quoi, dès lors qu'il y a la volonté.
Alors justement, à propos des femmes, ça tombe très bien parce que vous fournissez une transition idéale. Comme vous le savez, le ministère français des Affaires étrangères a ouvert un site internet il y a quelques mois intitulé « Mon idée pour le français, consultation publique en ligne, consultation publique mondiale à laquelle chacun et chacune peut contribuer ». Écoutez justement une des contributrices qui nous parle de Mauritanie.
Bonjour, je m'appelle Wileïkane de la Mauritanie. Ici, la langue française a toute une histoire. Étant la deuxième langue officielle et la langue de travail après l'arabe, elle crée un lien fédérateur avec les langues locales comme le Hassania, le Wolof, le Poular et le Soninké. Savez-vous qu'à l'époque, le pourcentage des filles scolarisées était très minime? Certaines qui sont allées à l'école ne continuaient pas leurs études. Aujourd'hui, même si beaucoup travaillent, beaucoup s'engagent dans l'entrepreneuriat, eh bien, ne pas parler français constitue un handicap professionnel, une exclusion, une discrimination pour certaines prises de fonction, un problème pour lire des lettres, une ordonnance ou une loi. La plupart des opportunités en Mauritanie passent par l'utilisation et la maîtrise des langues officielles, et le français en fait partie. Pour cette femme, ne pas apprendre le français limite son développement professionnel, mais aussi ses droits, comme le droit à la santé, le droit à l'assurance maladie. J'ai un rêve, c'est celui de voir toutes les femmes mauritaniennes reprendre le chemin de l'école, apprendre le français et briser le silence.
Véronique Tadjo, il faut des actions spécifiques en faveur des jeunes filles et des femmes.
Je pense que c'est très beau ce qu'elle dit, cette jeune femme. Oui, l'éducation, c'est vraiment tout à fait primordial, parce que c'est ce qui va permettre, comme on le disait tout à l'heure, d'accéder au monde du travail. Et justement, les jeunes se sentent bloqués quand la langue française n'arrive plus à leur permettre cet accès-là.
Et les femmes plus que les autres?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau de l'école, de l'accès à l'école pour les femmes, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Alors, il y a aussi un autre débat qu'il faut aborder avant de se quitter, c'est celui qui concerne le marché du livre scolaire en Afrique. Vous avez certainement vu, Gustave Agakpo, ce collectif d'éditeurs indépendants qui s'insurge contre ce qu'il dénonce comme la mainmise des éditeurs français sur ce marché et qui explique, pour faire simple, que les maisons d'édition africaines ont les moyens de faire vivre cette francophonie sur chacun de leurs terrains respectifs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un vaste débat, vous allez me dire.
C'est un vaste débat, mais c'est aussi ça, la diffusion de la culture, oui, de l'éducation absolument. Et de la francophonie.
Moi, je crois la possibilité de coédition. Je pense qu'on est là aussi parce que la réalité fait que il y a pas mal d'écrivains d'origine francophone comme moi qui sont aussi établis en France, qui font aussi le grand écart, qui écrivent à la fois parce qu'on écrit aussi avec son public, pas que pour, mais avec, et donc on va écrire des histoires qui sont voilà, avec le public togolais, avec le public français. Je pense pas la chose de la même façon, mais si au final voilà, tous les lecteurs, on trouve son lecteur. Je suis un écrivain japonais, disait Daniel Laferrière. Oui. Donc il y a quand même ça que il faut que ça circule. Il faut que ce soit dans des ponts et non plus continuer à poser un marché contre un autre. Surtout pas dans la culture et dans l'éducation qui sont un patrimoine commun.
Véronique Tadjou.
Je voudrais juste ajouter que, en ce qui concerne les éditeurs africains, le nerf de la guerre, c'est le scolaire. C'est-à-dire que les choses ont commencé à changer lorsque les éditeurs africains ont commencé à avoir les marchés du scolaire. Et à ce moment-là, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus solides financièrement, et ils sont à même de s'intéresser à la littérature générale, à la poésie, au théâtre. Mais avant cela, il y avait une situation d'injustice et qui faisait que, voilà, ils n'avaient pas les moyens financiers.
Mais quand un Boubacar Boris Diop, par exemple, écrit en Wolof pour les locuteurs Wolof, puis ensuite il traduit son livre en français pour élargir son lectorat d'abord en Afrique francophone et ensuite ailleurs, est-ce que c'est ce genre de cheminement-là qu'il faut suivre, Gustave?
Je pense qu'il y a plusieurs cheminements possibles. Moi, une de mes grandes frustrations, c'est de ne pas traduire mes pièces que j'écris parce que j'essaie d'écrire qu'en français et pas en mina, mais je peux le traduire oralement faisant du théâtre, donc je peux imaginer qu'une de mes pièces, je l'ai fait en mina, par exemple. Mais bon, la réalité fait que le projet n'ont pas encore permis de le faire, mais oui, c'est des choses
possibles.
Mais
c'est possibles. Pas exclu.
Non, c'est pas exclu du tout. Je suis pas du tout exclu.
Je crois qu'il faut voir aussi il faut voir aussi les cas, les pays cas par cas. Oui. Par exemple, si on prend le Sénégal, ils ont une grande chance, c'est que le Wolof est quand même une langue prédominante, et donc il y a un marché
un marché
potentiel.
Oui.
Voilà. On prend le Nigeria, c'est quand même le Hausa, le Igbo et le Yoruba, c'est beaucoup de monde. Donc on peut avoir l'édition peut vraiment tenir.
Alors à propos de théâtre, Gustave Agakpo, parce que c'est la période du prix RFI Théâtre bientôt, c'est la cinquième édition cette année, hein, il concerne les auteurs de 18 à 46 ans qui vivent justement dans cette francophonie du Sud qu'on évoquait. Les textes d'ailleurs sont à envoyer, je le rappelle, d'ici au 21 avril minuit, c'est un prix que vous connaissez bien, Gustave Agakpo, c'est vraiment un moyen de stimuler davantage la créativité des jeunes dramaturges.
Ah oui, absolument. Absolument, parce que aussi c'est des dramaturges dans certains pays qui sont, je vais dire, un peu livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, comme beaucoup d'art, ça se fait aussi par la pratique, et on a peu, moi au Togo, j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup de représentations théâtrales, la bibliothèque, c'est le centre culturel français, donc on est peu confronté à ailleurs. Et les festivals, il y en a qui se passent dans des conditions catastrophiques. Le Massa, par exemple, c'est absolument scandaleux comment c'est organisé. Donc, pouvoir aussi avoir des prix comme ça qui tout d'un coup vont mettre en lumière cette démarche-là, ce travail, c'est une reconnaissance pour soi. Et pour aller au-delà, moi, je crois que peut-être aussi qu'il est important de voir comment réunir toutes ces choses-là. C'est pour ça que je reviens aussi peut-être aussi à la notion de théâtre francophone. C'est-à-dire, pour moi, il est important que tout comme pour la danse, tout comme pour l'Odéon, théâtre de l'Europe, à un moment donné, la France a affirmé que sur son espace, il veut un espace qui a été consacré à l'Europe.
Oui, donc on en revient toujours à l'affirmation politique, une vraie volonté nationale.
Il faut une affirmation politique,
nationale.
Ça passe aussi par là. C'est-à-dire que ça ne doit plus cette petite chose-là de « Ah tiens, c'est les francophones, donc oui. Moi en tant que Français, je ne me reconnais pas en tant que francophone ». Non, il faut que si la France, si Macron veut vraiment réussir sa transition... parce que pour moi c'est une transition. Et pour revenir au rêve des pères fondateurs, il faut l'affirmer très fort de manière très politique aussi.
Michael
Jean.
Je
pense que dans tout ce que vous dites, il y a une chose qui traduit bien ce qu'est la francophonie. C'est le faire ensemble. Vous parliez on parlait d'édition, vous disiez, ce qui peut être intéressant, c'est la coédition. Dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, dans le domaine aussi de l'avancement des droits, dans le domaine des institutions, dans le domaine de l'éducation, de la formation, de l'édition, il y a dans la francophonie un espace de passerelle, de mise en commun, où nous n'avons pratiquement jamais à réinventer la roue. La francophonie, c'est aussi un espace de solution. Face à chaque problème, nous pouvons le penser ensemble et tirer avantage de tout ce qui se vit d'un pays à l'autre, d'un lieu à l'autre, mais en même temps de tout ce que nous pouvons porter aussi ensemble. Et c'est là la beauté de la chose. Et tout ça avec bien sûr, cette langue qui nous permet de nous rejoindre et d'entrer en relation pour faire davantage, pour nous mobiliser. Et c'est notre quotidien, c'est notre cœur de métier que d'agir ainsi. C'est assez fabuleux parce que nous rassemblons toutes nos perspectives sur les 5 continents. Et c'est notre force. Et c'est extraordinaire de pouvoir le vivre ainsi, d'ouvrir de ces passerelles, d'encourager le réseautage, d'être là en accompagnement, d'être là en renforcement, et cela partant de tout ce que nous sommes, dans la diversité aussi de nos expériences
et de
nos savoir-faire.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission. Merci particulièrement à vous, Michael Jean, de nous avoir accueillis ici à l'Organisation Internationale de la Francophonie. Merci Véronique Tadjo, merci Gustave Akakpo. La francophonie, on continue évidemment d'en parler toute la semaine sur l'antenne de RFI, notamment demain à travers une journée spéciale en direct de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Dans un instant, le journal. Nous, on se retrouve demain avec un grand défenseur de la langue française aussi, lui-même consacré une chanson. Yves Duteil sera avec nous pour nous présenter son nouvel album qu'il a baptisé Respect. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.